Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Curious Live, l'émission des étudiants du Master en Stratégie de Communication Internationale. Nous vous souhaitons la bienvenue pour le 9e et déjà avant-dernier épisode de cette saison, qui porte sur le thème de la communication inclusive. Flavien et moi sommes aujourd'hui en compagnie de nos camarades Léa et Léna, ainsi que de Léa Gruyer, doctorante au sein du laboratoire Siméos et de l'Université de Bourgogne en sciences de l'information et de la communication sur les influenceurs et influenceuses alimentaires en Bourgogne-Franche-Comté. Afin de questionner les normes de beauté imposées par la société et ses conséquences, cette émission est aujourd'hui dédiée à la représentation des corps dans l'espace public. En effet, les diktats autour du corps et de la minceur ne datent pas d'aujourd'hui. Au XVIe siècle déjà, les dames avalaient de la craie pour perdre du poids. Mais alors Léa, d'où viennent ces normes? C'est la faute à qui?
Bonjour, merci de me recevoir. Alors, en premier, on pourrait pointer la publicité, qui entretient tout simplement l'idée que les femmes doivent avoir un corps mince et les hommes un corps musclé. Et en fait, elle montre tout simplement une image faussée de la réalité et de la pluralité des corps. Et en fait, cette image erronée, elle pousse tout simplement la population et surtout les femmes à complexer. En 2020, en France, une étude de YouGov a montré que 67% des femmes étaient complexées par leur apparence physique et que 8 femmes répondantes sur ces 10 affirmaient qu'en fait, c'était la publicité, les médias ou les réseaux sociaux qui accentuaient ce mal-être.
Est-ce que vous auriez des exemples à nous donner de ça?
Oui, bien sûr. On pourrait parler par exemple des publicités de parfums. Donc encore aujourd'hui, la femme est sexualisée et représentée comme une femme objet, comme on peut le voir dans plusieurs marques de parfums comme Jean-Paul Gaultier ou Paco Rabanne. Et d'ailleurs, là où les hommes sont représentés comme dominants, les femmes sont victimes en fait d'un regard stéréotypé, comme par exemple dans les publicités de yaourt où elles sont toujours très minces, très souriantes, très contentes d'être au régime. Et c'est d'ailleurs un phénomène que Nora Buazzuni a expliqué dans son livre « Stexisme », où elle dit « Encourager les femmes à ne pas culpabiliser de manger ce qui leur fait plaisir, c'est leur rappeler qu'elles devraient justement se sentir coupables ».
C'est la faute aux publicités donc, mais pas seulement. Il me semble que le cinéma a aussi un rôle important à jouer dans la pérennisation de ces sujets. Flavien, qu'en est-il à ce niveau-là?
Alors effectivement, Hollywood, il a également un énorme impact sur notre perception des corps. Alors, pendant très longtemps et encore aujourd'hui, les femmes ont été et sont encore représentées maquillées avec des tailles plutôt fines, alors que les hommes, au contraire, ils sont, eux, représentés de plus en plus musclés. Sur les écrans, on nous partage donc une vision assez précise des corps qu'on devrait avoir. Au final, c'est le reflet d'une société avec un regard majoritairement masculin et sexualisé sur la femme. Il faut voir par exemple ce qui était demandé à Marilyn Monroe à l'époque. Elle-même broyée par l'industrie cinématographique, un milieu à l'époque exclusivement géré par les hommes, et dans lequel Norma Jean Baker, de son vrai nom, affirmait ne pas se reconnaître et littéralement jouer un personnage, celui de Marilyn. Mais dans cette idée de contrôle, presque de diktat lié au corps parfait, entre guillemets, on remarque à l'inverse que les personnes dites en surpoids sont souvent représentées dans les médias à travers des rôles à tendance comique, qui sont en quelque sorte un écho à l'image que le grand public peut se faire d'elle de manière générale.
Merci Flavien. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire en vous partageant une phrase de Naomi Wolf, issue du livre « Quand la beauté fait mal », dans lequel elle dit « Une culture obsédée par la minceur des femmes n'est pas omnubilée par la beauté, mais par l'obéissance des femmes ». À méditer donc, mais pour en revenir à notre sujet, hormis les milieux de la publicité et du cinéma, les réseaux sociaux aussi ont un impact sur notre perception de ce qui est acceptable ou non en termes de normes sociales, mais aussi de normes corporelles. Léna, vous pouvez nous donner des exemples ?
Merci Léa pour ta question, bonjour à tous. Donc en effet, l'utilisation quotidienne des réseaux sociaux a aussi aggravé la représentation des corps et l'estime de soi. Certains influenceurs comme Thibaut Inchep par exemple entretiennent ce culte du corps. D'autres comme Maëva Guénam promeuvent des compléments alimentaires pour maigrir. Un matraquage quotidien qui influence l'alimentation, la perception des corps et qui peut enchaîner des troubles des conduites alimentaires. C'est d'ailleurs ce qu'a observé Patricia G. Conrod, qui est professeure au département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal. En 2023, elle établit un lien entre l'augmentation de l'usage des médias sociaux et un risque accru de symptômes liés aux troubles alimentaires chez les adolescents, ainsi qu'une diminution de l'estime de soi.
Une personne qui est bien placée pour nous parler de ce sujet aussi, c'est Léa Gruyer, qui est doctorante et autrice d'une thèse sur les influenceurs et influenceuses alimentaires en Bourgogne-Franche-Comté. Léa, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, je voudrais vous demander, est-ce que vous pourriez nous parler du sujet de votre thèse ?
Mon projet de thèse, il vise à analyser les discours qui sont promus par les influenceurs autour de l'alimentation. en s'intéressant à trois choses en particulier. La première, ça va être la production de contenu, donc en analysant directement des productions qui sont diffusées sur les réseaux sociaux et que je croise aussi avec des entretiens avec des influenceurs. Le deuxième élément, c'est la circulation des contenus, donc comment ces messages aussi ils se diffusent sur d'autres espaces médiatiques comme bah, par exemple les livres, des émissions radio, la télévision. Et puis enfin, la réception des contenus, donc plus particulièrement chez les jeunes. Et donc là, je réalise des ateliers dans des collèges où j'essaie d'analyser comment les élèves traitent l'information qu'ils voient sur les réseaux sociaux autour de l'alimentation.
Et justement, quelles conclusions vous avez pu tirer jusqu'à présent?
Je pense que sur le sujet du corps, c'est plus sur la production de contenu, qu'est-ce qui peut influencer aussi leur stratégie de production. Globalement, en gros, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont très influencés par la politique des plateformes, aussi l'Instagram, TikTok, etc. Et donc, en fait, ces plateformes-là vont avoir une influence sur la façon dont les influenceurs vont produire. Donc forcément, ils vont essayer de comprendre comment marchent les algorithmes. Et donc, ça va créer, si on veut, des normes esthétiques, etc., qu'ils vont devoir suivre pour pouvoir être visibilisé.
Un grand merci à vous pour ces précisions. Une autre question qui me vient à l'esprit, c'est sur l'impact des réseaux sociaux sur nos habitudes, et plus particulièrement, quel rôle les réseaux sociaux jouent-ils sur la relation au corps?
Sur les réseaux sociaux, le corps, il peut devenir un objet de mise en scène de soi et plus particulièrement de mise en visibilité de soi. Et souvent, de manière implicite, c'est pour promouvoir un mode de vie. Donc, par exemple, dans le cas des influenceurs fitness, en fait, ils articulent un discours alimentaire, un discours sur le sport et puis des représentations du corps qui vont, en fait, le corps va apparaître un petit peu comme un témoin du mode de vie qui va être promu. L'idée, c'est de dire, regardez mon corps, voilà ce que je fais pour l'avoir, et si vous voulez avoir le même, ben, suivez mes conseils. À cela s'ajoute aussi un discours néolibéral, on pourrait dire d'empowerment, et donc qui repose le plus souvent sur la notion de volonté, de réalisation de soi, de responsabilité individuelle aussi. C'est-à-dire que vous êtes responsable de votre corps et vous avez le pouvoir de le changer avec de la volonté et de la motivation. Ça amène aussi parfois à diaboliser certains aliments qui seraient considérés comme plus gras, qui font grossir, qui sont mauvais pour la santé. S'imposer par exemple aussi des séances de sport tous les jours, un rythme un petit peu particulier. Et ça marche très très bien. D'autant plus que l'influenceur, en partageant sa vie tous les jours, ses conseils sur les réseaux sociaux, il va créer une relation de proximité en ligne. Et il y a un chercheur qui s'appelle Maxime David et qui explique que ben, notamment les jeunes ont tendance en fait à se tourner vers les réseaux sociaux et vers ce type d'influenceur quand ils veulent changer leur mode de vie. Et puis, il y a quelque chose qu'on souligne aussi très peu, c'est la responsabilité des réseaux sociaux, puisque en fait, ces plateformes, et notamment plusieurs travaux scientifiques, je pense aux travaux de Virginie Julliard ou de Thibaut Grison, tentent à montrer qu'elles ont un rôle en fait dans le type de contenu qui va être mis en avant ou censuré, et puis qui participent en fait à créer des normes aussi esthétiques, voire à faire circuler des normes déjà existantes.
Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, si les normes sont propagées un peu partout dans la sphère publique aujourd'hui, elles ne sont pourtant pas sans conséquences pour notre santé, à la fois physique et mentale. Pour nous en parler, je laisse maintenant la parole à Léa.
Effectivement, ces diktats sont stricts et sont souvent à l'origine de vagues de harcèlement, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la rue ou encore dans les écoles. Par exemple, on parle souvent de fat-shaming, donc grossophobie en français, tout comme le skinny-shaming, maigrophobie. Et en fait, ça consiste en l'acte de ridiculiser, de stigmatiser, de rabaisser des personnes en raison de leur apparence physique, et plus particulièrement de leur poids, parce qu'ils ne correspondraient pas aux standards de beauté imposés par la société, tout simplement. Et en fait, sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok, on a vu des tendances émerger qui peuvent parfois être dangereuses. L'une d'entre elles consiste à se filmer dans des vêtements amples et à resserrer ce vêtement autour de la taille pour dévoiler un corps plus fin que d'apparence et avec la description « je parie qu'elle est grosse sous ses vêtements ». Et ensuite, on peut lire dans les commentaires différentes personnes juger le physique ou indiquer leurs préférences.
Ces tendances, elles engendrent donc des problèmes de harcèlement dont les conséquences peuvent aller très très loin, mais pas seulement. Léna, est-ce que vous pouvez compléter ce qui vient d'être dit?
Oui, alors cela peut aussi engendrer de graves problèmes de santé physique et mentale, surtout chez les adolescents, du type troubles des conduites alimentaires, des maladies mentales qui sont associées à la nourriture et à l'apparence physique, parmi lesquelles nous retrouvons par exemple l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie ou encore la bigorexie, qui est l'obsession d'avoir un corps trop fin et qui déclenche une compulsion sportive. Une étude d'ailleurs de la revue de la littérature Cyberpsychology, intitulée en français « Réseaux sociaux et psychopathologie des troubles de l'alimentation », une revue systématique, a d'ailleurs montré un lien fort de cause à effet entre l'utilisation excessive des réseaux sociaux et le développement de troubles des comportements alimentaires.
Est-ce que vous pouvez nous détailler les résultats de cette étude ?
Oui, bien sûr, les résultats de cette étude ont démontré deux choses. Donc premièrement, plus nous passons du temps sur les réseaux sociaux, plus nous avons de chances de développer ces troubles des conduites alimentaires. Et deuxièmement, plus nous utilisons ces mêmes réseaux sociaux pour nous comparer aux autres sans interagir avec eux, plus l'insatisfaction corporelle et l'estime de soi tendent à en pâtir et à diminuer.
Merci Léna pour ces précisions. Alors on remarque une visibilité accrue depuis quelques années des problèmes de santé liés au corps et à l'alimentation, comme l'anorexie, la bigorexie ou encore l'orthorexie, comme vous venez d'en parler. De nombreuses personnes prennent aujourd'hui la parole sur ces sujets pour sensibiliser à ce propos et aider à changer les mentalités. C'est le cas par exemple de la chanteuse française Joyce Jonathan, qui en janvier dernier a sorti un livre « Corps à cœur », ainsi qu'une chanson intitulée « Si je mange, je vais en enfer », dans lesquelles elle se livre pour la première fois sur son combat contre ses troubles. Cette chanson, on vous propose de l'écouter dès maintenant sur RCF en Bourgogne. A tout de suite.
J'en ai souvent parlé sans en parler, j'ai effleuré le sujet. J'avais trop honte de raconter comment je me suis créé un monde isolé. Isolé de tout, des tables de famille, des rendez-vous joyeux que je voulais pas subir. J'avais peur de montrer aux autres que je ne sais pas me nourrir. Mieux vaut se laisser mourir. Si je mange, je vais en enfer. Y'en a que ça dérange. Si je mange, je vais en enfer. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça te dérange? J'en ai souvent parlé sans en parler, je voulais pas mettre de mots, non. Vous dire que c'est une maladie, c'est vous raconter qui je suis vraiment. J'en ai gommé, dégommé, dévoré, trop bouffé de ce vide immense. Et dire que c'est alimentaire, moi je ne veux que remplir ma panse et toutes mes pensées. Si je mange, je vais en enfer. Y'en a que ça dérange. Si je mange, je vais en enfer. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça te dérange? Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que j'ai pris du recul. Que je considère être un peu sortie de cette étrange bulle. Je crois avoir compris le pourquoi du comment. Même si c'est jamais fini, cette fois c'est différent. Car je vous ai tout dit. Si je mange, c'est pas l'enfer. Si je mange, c'est peut-être le paradis même. Si je mange, c'est pas l'enfer. Même si ça te dérange.
Nous sommes de retour dans le Curious Live, l'émission des étudiants du Master en stratégie de communication internationale. Avant la pause, nous parlions avec Léna des conséquences des diktats de beauté imposés par la société sur la santé physique et mentale, qui peuvent mener entre autres à du harcèlement ou des troubles des conduites alimentaires. Et parmi les tendances qui se sont imposées comme des solutions, parfois controversées, on trouve celle du body positivisme. Pour nous parler de cette notion, j'aimerais me tourner de nouveau vers vous, Léa Gruyer. Quel impact ce mouvement a-t-il eu dans la sphère publique ?
Là, l'objectif, ça va plutôt être de mettre en scène des corps qui répondent pas du tout aux normes esthétiques habituelles en ligne. Donc, par exemple, la grosseur, les vergetures, la cellulite. Des corps que, par ailleurs, on voyait pas du tout sur d'autres espaces médiatiques comme la télé ou les magazines. Donc les réseaux sociaux permettent aussi ça, en fait, hein, une prise de parole de personnes qui n'apparaissent pas forcément sur d'autres médias. Sachant que maintenant, c'est à relativiser parce que du coup, l'influence de ce mouvement a entraîné aussi une modification des pratiques, notamment des publicitaires et des marques qui commencent un petit peu à surfer aussi sur ce mouvement body positive. Et ceci dit, ce mouvement, il est devenu donc un fonds de commerce pour certains influenceurs et pour les marques. Ce qui, dans un sens, permet aussi donc de faire circuler le message finalement et d'ouvrir à d'autres types de représentations et donc peut-être de conduire à davantage de visibilité et d'inclusivité. On peut aussi nuancer, en fait il marche bien ce mouvement parce qu'il est très peu politisé, c'est-à-dire qu'il s'adapte hyper bien au néolibéralisme dans le sens où il prône encore une fois la responsabilité individuelle. C'est finalement à l'individu et plus particulièrement aux femmes, puisque ça touche énormément les femmes, de faire un travail sur elles-mêmes. Cette fois, pas pour transformer son corps comme on peut le voir avec le fitness, mais pour s'accepter comme elles sont. Et à côté de ça, il existe des mouvements qui sont beaucoup plus politiques, qui politisent leur message, et qui font de la représentation de tous les corps une cause collective. Donc il s'agit par exemple du fat-activisme, qui est un mouvement qui est beaucoup plus radical, militant, qui est né dans les années 70 aux États-Unis et qui vise à lutter notamment contre la grossophobie. Et là, on va dépasser la sphère individuelle pour rentrer dans des enjeux de mobilisation collective. Mais forcément, la politisation du discours, ça plaît pas franchement aux plateformes, à TikTok, à Instagram, parce que leur modèle économique s'inscrit dans une forme de libéralisme et elle repose en fait sur la vente d'espaces publicitaires.
Merci beaucoup pour votre réponse. Flavien, je voudrais rebondir sur les solutions mises en place pour changer notre perception des corps. Est-ce que vous en avez d'autres à nous citer?
Oui, en effet, on voit apparaître de plus en plus de contenus sur les réseaux sociaux qui tendent vers une certaine ouverture d'esprit quant à la question de l'acceptation du corps, donc. Par exemple, sur Instagram, Louise Aubery, connue sous le nom My Better Self, ou encore Juliette Katz, alias Coucou les Girls, mais aussi le compte Social Media vs Reality, qui poste notamment des photos de différentes célébrités non maquillées, ce qui va contraster avec l'image qu'on se fait de ces célébrités justement de manière habituelle.
Et en parlant justement des célébrités, il me semble que vous avez des exemples de certains qui ont pu être concernés par la question du regard d'autrui sur leur apparence physique, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. On peut citer notamment la comédienne Lola Dubini, avec une affaire qui allait jusqu'au tribunal, ou encore les chanteuses Louane ou Selena Gomez, concernées par la grossophobie et le cyberharcèlement, ou à l'inverse, chez les hommes également, l'acteur Chris Pratt, accusé par les internautes de ne pas être assez musclé, jugé même squelettique. Cette exigence physique, elle s'immisce parfois jusque dans les grosses productions, à l'image de la comédienne Carrie Fisher, l'inoubliable princesse Leia de Star Wars, qui racontait, en 2015, la façon dont l'équipe du film lui avait demandé de perdre plus de 15 kilos pour son rôle dans le nouvel épisode. Elle déclarait être, je cite, « dans un milieu où les seules choses qui comptent sont le poids et le physique ». On voit donc que ces voix, elles résonnent encore du côté des plus grandes célébrités pour faire changer ces normes, même si c'est un combat qui reste encore très long.
Merci Flavien pour ces éléments. C'est déjà la fin de cette émission. Un grand merci encore une fois à vous, Léa Gruyer, pour votre participation. Pour les intéressés, vous pouvez découvrir la thèse de Léa Gruyer dès le printemps 2025 en ligne sur HAL ou thèse.fr. Un grand merci à vous également, Léa, Léna et Flavien. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site rcf.fr, rubrique C'est le mag étudiant Massy. Pour continuer la discussion, l'article consacré est disponible sur notre blog, le Curious Blog, à l'adresse junioragencemassy.fr/blog. Enfin, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du Curious Live dédié à la communication inclusive. Belle soirée à toutes et à tous. 18h30 sur RCF en Bourgogne, c'est l'heure de votre journal local.